Vous êtes sur RTL. En direct de la place du marché à Neuilly-sur-Seine, voici Céline Landreau, Stéphane Carpentier, Laurent Tessier, Louis Dugine, Greg Caradon, Damien Béchiot et Cyprien Sully.
Toute l'équipe est en direct, évidemment, on est ensemble jusqu'à 20h, je suis ravi de vous retrouver, j'ai fait un petit sprint, ça va pas mal et je mesure bien que je vieillis.
Faut se tenir en forme,
ça va la grande équipe, tout le monde va bien?
Oui, bah nous ça va, on n'a pas eu besoin de courir.
On est bien installé, tout va bien. Smaïn est avec nous.
Super, déconfiné, tout à l'heure j'étais en studio, maintenant je suis en plein air. Que dire de plus?
Vous êtes un invité de luxe pour une espèce d'ovni de la radio.
J'adore la radio, c'est génial, c'est super.
Bon, on est ravis de vous accueillir en tous les cas, c'est On défait le monde. C'est en direct, vous l'avez compris, d'un bar qu'on aime beaucoup ici à RTL. C'est avec Cyprien, avec Céline, avec Brice, avec Laurent, avec Greg qui est aux manettes. En régie, bien sûr, avec Rebecca qui est
tout
aux manettes
seul.
Ici, chez nous. Pour nous accompagner, on a plein de choses à vous dire comme d'habitude. Cyprien, c'est parti pour le sommet.
Pour la dernière de la saison, On défait le monde se retrouve donc au bistrot, en direct du Havane, place du marché à Neuilly, au pied de RTL, pour une célébration de cet art de vivre à la française. Bar, bistrot, café, restaurant, en quoi sont-ils l'un des piliers du lien social? Gilbert Jiquel, le patron, va nous rejoindre. Smaïn, qui a écumé les cafés théâtres, est resté avec nous. Et puis on passera un coup de fil au chef 2 étoiles, star de Top Chef, Michel Saran, qui sera en direct de son restaurant toulousain. On délocalise, mais on garde les fondamentaux. Vous aurez votre loser, votre grand perdant. Mais alors ce soir, c'est pas celui de la semaine, non. C'est le grand perdant de toute la saison, celui qui a vraiment passé une très très mauvaise année, Céline.
Et on va parler de Franck Riester, qui est encore ministre de la Culture.
Dans le billet retour, Brice Dugénie, vous avez regardé l'année dans le rétro.
Oui, dans l'émission du 3 janvier, on a cru vous expliquer à quoi allait ressembler l'année 2020. Le Covid est passé par là. Aujourd'hui, on va tout remettre dans l'ordre.
D'ici 20h, vous aurez vos trois infos pour briller au dîner. On ira voir Laurent Tessier, qui est en vadrouille à votre rencontre sur cette place du marché, pleine de bars et de cafés. Bon, et puis, pour la dernière de la saison, niveau cadeau, on a mis le paquet. Attention, ce soir, on vous offre un séjour de 2 nuits pour 2 dans un relais château 5 étoiles à Saint-Jean-de-Luz. Bam! On défait le monde. Épisode 43, c'est le bistrot qui vous parle et c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Je voudrais d'abord donner la parole à Smaïn. Qu'est-ce que ça vous évoque, un bar, un restaurant comme ça? Est-ce que ça, c'est vraiment la France?
Ah bah oui, c'est l'échange. C'est le partage. J'adore. C'est génial. C'est super. Et là, je vois que là, j'ai des potes de colo, là. Il manque plus que le petit pichet de bière et c'est bon.
Ça va venir, peut-être.
Non, j'aime bien. J'aime bien la radio, parce que la radio, c'est le relâchement. Vous savez, la télé, hein, c'est très guindé. Hein. Il faut le prompteur. Là, pompe-là, on se lâche et tout. Et là, lui, en train de se mettre les doigts dans le nez, c'est génial. C'est extraordinaire.
Lui, c'est Cyprien Ciné. Ah, ouais, voilà.
Cyprien Ciné, qui est notre surfeur tous les matins de la semaine, vous le savez, à 6h40 et juste avant 8h, aux côtés de Yves Calvi. Et il surfe tous les vendredis, rien que pour nous, dans On défait le monde. Surf de la semaine avec Cyprien.
Et alors, je vous offre carrément un surf de la saison. Ah oui. On a vécu une saison de compète. Tiens, vous vous souvenez de ce que vous faisiez, par exemple, le vendredi 11 octobre 2019. Alors, je sais pas où vous étiez tous, mais Céline, elle bossait ce soir-là, souvenez-vous.
Il était recherché depuis 2011, soupçonné d'avoir tué toute sa famille à Nantes. Xavier Dupont de Ligonnès a été interpellé à l'aéroport de Glasgow, en Écosse.
On s'en souvient.
Ah oui, l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès.
Bon. Et ça tournait en boucle sur BFM.
On s'en souvient. Bah oui, pas que. Hein. Au fil de la soirée, on a commencé à être de moins en moins sûr. Écoutez.
On l'a retrouvé, Xavier Dupont de Ligonnès, ce soir
La personne qui a été arrêtée correspondait peu à la photo qu'on avait de lui il y a 8 ans.
Là, il faut être sûr du coup.
Ouais, faut être sûr du coup quand même, hein. Et le lendemain, cette interview du voisin, du pseudo Xavier Dupont de Ligonnès, sans doute vous en souvenez, c'est l'interview de l'année.
Les empreintes, c'est 10 doigts, il en a que 9. Merde, il y a 9 doigts. Putain, mais j'ai merde.
Mais Guy, ça fait 30 ans, c'est avant qu'il était chez Renault. On annonce qu'il a 58 ans. Putain, il doit avoir 65 ou 66 ans.
C'était pas Xavier, c'était Guy avec ses 9 doigts. Un démarrage en fanfare, hein, comme celle qu'on a eue un mois plus tard de fanfare. Vous en souvenez de celle-là? C'était le 11 novembre, partout en France, résonne la sonnerie aux morts. Partout, sauf dans cette ville dont par charité nous tairons le nom, où ça a donné ça.
C'est Matignon là ou pas?
Alors comme c'était le 11 novembre, hein, c'est férié, il devait rester que les stagiaires de la fanfare. Bon, après, le reste de l'actu a quand même été vampirisé par le coronavirus. cher à Stéphane Carpentier. Évidemment.
Mais pas de nouveaux cas de coronavirus, je vais y arriver, pardon, aujourd'hui enfin.
Oui, le pauvre, il a mis 6 mois, mais il a réussi hein, par s'habituer. Un coronavirus grâce auquel on a quand même découvert le plus beau melon de France. Le melon d'or 2019-2020.
Non, c'est pas moi.
Non, c'est pas vous. C'est pas vous, Smaïn, il est décerné au professeur Raoult, évidemment.
Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. C'est moi, l'édite.
Encore une fois, taisez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Écoutez-moi.
Les melons apprécient les sols plutôt riches.
Victoire au la main. Bon, heureusement que la vie a repris hein, et qu'on a pu avoir droit au deuxième tour des municipales avec un débat apaisé, serein et éclairant entre les trois prétendantes à la mairie de Paris.
Allez, vous avez encore une minute chacune. Une minute chacune, mesdames, s'il vous plaît. Vous allez encore avoir une minute. Madame Dati,
sujet grave.
Madame Dati.
Madame Buzyn,
Madame Dati. Madame Dati, encore une minute pour conclure. Encore une minute pour conclure.
Madame Buzyn, Madame Dati.
Ah, la politique comme on l'aime, pleine de bon sens et de bonnes phrases également.
Chirac est en moi et il sera toujours en moi tant que je serai moi. Je peux pas vivre sans la vie.
Le port du masque, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
La peau de saucisse m'est tombée des yeux.
Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
J'ai envie qu'on dise dans les dîners en ville parisien ou new-yorkais. J'ai envie qu'on dise waouh, j'ai envie de venir vivre à la boule.
En fait, j'aurais dû venir avec une paire de couilles et la poser sur la table, comme ça peut-être
wow. Je pas de parler.
Quand je vous dis que la France est prête, c'est que la France est prête.
Ouais, alors prête à quoi? On sait pas, mais pour tout ça et pour tout le reste. Et ben on dit vivement la rentrée.
Un beau surf signé Cyprien, signé évidemment Smaïn. La politique, c'est un régal en termes de petites phrases.
Ah oui, puis c'est bien. Puis il y a des perles là. Vous me sortez des choses extraordinaires. C'est super. Non, moi je regarde, j'écoute la politique évidemment, mais c'est moi, je suis plus un, comme je vous disais tout à l'heure, je suis un observateur du quotidien comme ça. Mais c'est très difficile quand même. Je les salue quand même parce que c'est pas évident chaque jour de trouver les idées. Là, je pense à Franck Riester là qui doit être, je sais pas dans son lit.
On en parlait tout à l'heure. Il est pas bien là.
Soyez patient. Oui ou non là? Mais si les paris sont ouverts là, non?
Moi, je dirais non.
Ah bon? Et vous, pensez, vous pensez à qui?
Pour le remplacer?
Oui.
Bah vous?
Bah voilà, c'est ça.
C'est ça qu'il fallait dire, évidemment. C'est On défait le monde, c'est jusqu'à 20h avec toute l'équipe. Il est 19h25.
RTL Soir, On défait le monde.
En direct du bar de Neuilly-sur-Seine, donc le Havane, avec tous nos petits camarades ici. Toute cette équipe qui vous accompagne depuis le début de la saison. Et c'est l'ultime rendez-vous, justement, jusqu'à 20h. Cyprien, première grosse info. On va s'arrêter, justement, à ces cafés et à leur importance.
Oui, c'est peut-être pendant le confinement qu'on s'est aperçu à quel point ils étaient essentiels à notre équilibre. Boire des verres entre amis, au bar, en terrasse, discuter, rencontrer des gens. Le bistrot joue un vrai rôle central dans nos vies, Céline.
Oui, si important, le bistrot, que le gouvernement en a fait un des axes de revitalisation des territoires. Grâce aux licences 4, vous savez, ces autorisations indispensables au débit de boissons. Des bistrots qui, au fil des années, ont disparu des villages. Entre 1960 et 2020, le nombre de licences 4 est passé de 200 000 à 40 000 seulement dans le pays, 5 fois moins. Et les bars se concentrent souvent désormais dans les villes. Alors, pour enrayer ça, redynamiser les villages, en février, le désormais ex-premier ministre Édouard Philippe annonçait que l'État allait créer gratuitement des licences 4 pour les communes de moins de 3500 habitants qu'il demanderait. Parallèlement, le groupe SOS lançait son opération 1000 cafés avec ce même objectif, remettre de la vie dans les communes. Plus de 700 se sont déjà portés candidates et les 5 premiers cafés ont pu ouvrir, parmi eux au Bon Accueil à Sens en Bretagne, un village de 483 habitants et un maire, Nicolas Batelier, aujourd'hui enchanté.
C'est un point central, le café du village. C'est un point de rencontre. Il y avait une attente aussi de redémarrer un commerce hein, au niveau des villageois. Ils voulaient à tout prix qu'il y ait un café, il y ait quelque chose qui redémarre, quoi. Là, vous avez l'impression d'avoir un village endormi. Petit à petit, on va essayer de le réveiller et le café contribue énormément à ce réveil, quoi.
Et ce café, il est sur la place du village où le maire espère maintenant faire revenir un marché. C'est un café multiservice, on peut déposer ses colis, acheter les glaces d'un producteur local, déguster les produits du coin. Bref, le but là-bas, c'est vraiment de remettre de la vie, recréer du lien. Gilbert, bonsoir. Vous êtes vous le patron du bistrot qui nous accueille? Alors, à Neuilly, on ne peut pas dire qu'on soit dans un petit village, mais est-ce que en ville aussi, pour vous, le rôle du café, il est du bistrot, il est crucial, essentiel pour le lien social?
Je pense que dans chaque ville, il y a des bistrots, effectivement, qui ont chacun une certaine typicité ou une ambiance complètement différente. Je pense qu'il n'y a aucun bistrot. Enfin, chez moi, c'est un bistrot. D'abord, c'est pas une brasserie. Et je pense qu'il y a des ambiances particulières où des gens viennent tous les jours. Ce qu'on se rend pas compte, c'est que même dans des villes comme ici, il y a des gens qui ne discutent pas de la journée avec personne. Contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, le seul moment où ils ont un échange, c'est avec des affaires comme la nôtre. où des gens ont l'occasion d'échanger et puis de éventuellement de rencontrer. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est la mixité que ça peut représenter. Parce que tout le monde parle avec tout le monde.
Il n'y a plus de classe sociale derrière le comptoir.
Pas du tout. Lien social, pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que bien souvent, il y a une quinzaine d'années, on entendait tous ces grands architectes de la limonade vouloir casser les comptoirs. Mais si on casse les comptoirs, on casse l'ambiance.
Oui.
Il n'y a pas de secret. Les relations, elles se nouent au comptoir et pas dans les salles.
Et cette mixité, vous la constatez même ici, dans une ville comme Neuilly, qui a la réputation d'être plutôt une commune riche, avec une population plutôt aisée.
Je peux vous dire, mais le mieux, ce serait peut-être pas de demander ça à moi, mais demander aux clients qui viennent. Il y a effectivement ici une mixité et les gens se retrouvent régulièrement le soir pour un moment qui peut être 5 minutes, on boit juste un coup et on se retrouve. Oui.
Et Audiard s'inspirait énormément dans les cafés.
Bien
les
sûr
mots d'auteur,
oui. Bien sûr.
C'est dans les cafés.
Et je pense qu'il y a des échanges avec... Des échanges qui se sont noués, qui ne se seraient jamais noués ailleurs qu'à un comptoir.
Smaïn, justement, ça peut être une source d'inspiration d'aller s'asseoir en terrasse, d'écouter
très
les
bien,
Français.
Alors, vous venez de toucher exactement. Ouais. Moi, j'écris dans les cafés.
Ouais.
Je fais tous les cafés de Paris, je m'arrête discrètement. C'est amusant parce que en écrivant, là, j'ai mon ordinateur, j'écris, je m'inspire. Et j'aime quand les gens me regardent travailler. Comme s'il y avait le regard du prof ou du... Ça m'inspire. J'aime le bruit autour de moi. Donc, vive les cafés.
C'est chouette comme boulot de travailler au café.
Mais oui, c'est vachement bien.
C'est ce qu'on est en train de faire aussi.
C'est bien, c'est super. Ah ouais. S'il y a juste les pompiers devant nous, s'il y a un souci...
On est sous surveillance, tout va bien. Smaïn est là, Gilbert, le patron du Havane aussi, ici à Neuilly. Et toute l'équipe qui vous accompagne, c'est jusqu'à 20h. Vous restez bien là, c'est en direct. Et vous réagissez les réseaux sociaux, compte Twitter et page Facebook à disposition. À tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde.
De ce soir, c'est en direct de la terrasse du Havane, donc ce bar où on vous accueille jusqu'à 20h pour défaire le monde. Ultime rendez-vous de cette belle saison, c'est le numéro 43. Info pour briller au dîner. Et toutes les semaines, il y a un président ou une présidente du jury, vous le savez. Et le président ce soir, il ne le sait pas encore, c'est Smaïn. Donc il va écouter les trois infos pour briller au dîner de l'émission. Et à la fin, on lui demandera tout simplement son verdict, son meilleur choix. C'est parti pour la première. Première info pour briller au dîner, c'est avec Céline.
Et en ce vendredi soir de départ en vacances, je vais vous parler des congés payés. Est-ce que vous savez quand ils ont fait leur apparition en France?
Mais évidemment, 36.
Eh ben non.
Non
mais c'est ce que vous avez appris à l'école. C'est vrai, 36, le Front Populaire, les Français qui partent en vacances à bicyclette. Oui mais non, les congés payés, ils sont apparus bien plus tôt, en tout cas pour les fonctionnaires de l'État. C'était en 1853, Napoléon III leur accorde par décret impérial 15 jours de congés payés. En 1900, les salariés du tout jeune métro parisien obtiennent 10 jours. En 1905, c'est les salariés des entreprises électriques, puis les salariés des usines à gaz. Et finalement, les grèves de 36, tous les salariés bénéficient alors de deux semaines de congés payés.
Voilà, on résume, en gros, on a appris des choses.
On a appris des choses.
Il y avait des voitures en 36, il n'y avait pas que des bicyclettes. Je le précise pour Smaïn.
Oui. Voilà. Le principe Smaïn de l'info pour briller au dîner, c'est une petite info qu'on peut sortir à table au milieu des copains ou en famille et tout ça.
Ça, c'est bien.
C'était la première, c'était avec Céline, il y en aura trois d'ici 20h et vous ferez le verdict tout à l'heure.
Très bien.
Bien entendu, tout en direct. On rejoint Laurent Tessier.
Alors Laurent Tessier, il est parti en vadrouille quelque part sur cette plage du marché où il y a plein de bars et plein de cafés ici à Neuilly. Laurent, vous êtes où?
Ah bah, je me trouve à une centaine de mètres de vous, donc les terrasses sont prises d'assaut, le ciel est quasiment dégagé. Oui, je suis derrière vous. Il y a des dizaines de tas qui sont sortis, des amis, des familles sont réunies et tout le monde profite du soleil. Et je suis justement avec un groupe de quatre amis, Milan, 24 ans. Bonsoir Milan.
Bonsoir.
Alors être en terrasse, revenir au restaurant, voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Ça représente l'été, les vacances, le plaisir de pouvoir se retrouver avec ses amis, boire du rosé en terrasse, ça rappelle un peu le sud, sans la mer.
Vous n'êtes pas du sud de la France?
Oui, je suis de Corse.
Ah, d'accord.
D'accord.
Exactement.
Laurent?
Oui.
Vous m'entendez, Laurent?
Je vous entends parfaitement, c'est bien.
Alors, on va revenir sur l'actualité politique aussi, du coup, on en profite, parce qu'il y a un nouveau Premier ministre en France. Est-ce qu'il le connaît?
Alors je vais être même encore plus fourbe, parce que ce n'était pas prévu. J'ai juste en face de moi Clémentine, 24 ans. Bonsoir, Clémentine.
Bonsoir.
Clémentine, c'est la question pour emporter un stylo rouge RTL. Savez-vous qui est Jean Castex?
Ah, le nouveau Premier ministre.
Oh,
ah
bah, wow.
Deux stylos.
Bravo Clémentine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur Jean Castex?
Il a soutenu Monsieur Sarkozy. Elle a écouté RTL tout à l'heure, ouais. C'est pas possible.
Et je peux vous dire que ce n'était absolument pas prévu. Donc bravo Clémentine et bravo Milan également.
Merci.
Bon bah, Laurent,
Nicolas Sarkozy,
je continue mon petit tour, les amis.
Ouais, alors, on vous retrouve régulièrement, bien sûr, d'ici 20h. Laurent Tessier en direct depuis la place du marché.
On accueille un nouvel invité.
RTL Soir, on défait le monde.
Et donc, on accueille un nouvel invité, Michel Sarran, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là. En fait, tout autant que le bistrot, mais dans un autre style, il y a le restaurant, à proprement parler, un véritable emblème de l'art de vivre à la française. Et donc, Michel Sarran, je rappelle, un chef 2 étoiles qui nous a régalé pendant le confinement dans Top Chef sur M6. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour vous, on parlait tout à l'heure du lieu de convivialité. Vous avez un restaurant étoilé, c'est un autre genre, mais est-ce que c'est un lieu de vie aussi ?
Bien sûr que c'est un lieu de vie, c'est beaucoup de choses, un restaurant étoilé. Souvent, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, mais on partage des bons moments, c'est des moments en famille, c'est des moments avec des amis. Et puis, on est là aussi, on représente un art de vivre à la française, une espèce d'exception culturelle. Nous sommes aussi les ambassadeurs de tout un tissu rural fait d'éleveurs, d'agriculteurs, de maraîchers, de vignerons, etc. C'est important, la table, c'est très très important dans notre pays.
Michel Sarran, dans les restaurants étoilés que je vous avoue je fréquente assez peu, est-ce qu'il y a des habitués comme dans un bistrot, des gens qui viennent régulièrement vous voir, avec qui vous avez un lien particulier?
Mais bien sûr, tout pareil. On a des personnes qui vont venir toutes les semaines et qui sont heureux de retrouver une ambiance, de retrouver des personnes qui vont les prendre en charge, qui connaissent leurs habitudes. Et c'est un lieu où on fait en sorte que nos clients se sentent bien. Et s'ils se sentent bien, ils ont envie de revenir. Donc oui, il y a des habitués.
Il y a une question qu'on se posait aussi par rapport au coronavirus. Ça a changé beaucoup de choses pour vous ou pas ?
Ouais, mais ça a changé. Bon, alors nous, on n'est pas tellement embêté au niveau de la distanciation parce que nos tables sont déjà assez éloignées, largement en mètres de séparation entre chaque table. Par contre, c'est vrai que maintenant, le service en salle se fait avec un masque ou une visière. Moi, j'ai opté pour la visière. En cuisine, on a des masques. Et puis, il y a des contraintes imposées par ce coronavirus. Et on doit s'y plier. C'est pas facile, mais on n'a pas le choix. On n'a pas envie de repartir dans un confinement et d'être fermé. Moi, j'ai été fermé 3 mois. C'est pas très rigolo, hein. Je préfère être ouvert avec un masque.
On imagine bien, Michel Sarran. Une question toute bête, est-ce que vous êtes contrôlé, justement, visité par rapport à tout ça, par rapport à ces mesures qu'on vous impose ?
Alors, nous avons eu un contrôle de la médecine du travail qui est venu voir que le protocole était appliqué rigoureusement, et on nous a remis un macaron que l'on peut apposer sur la porte pour signaler que voilà, les règles sont appliquées.
D'accord, c'est-à-dire qu'on n'est pas fliqué quotidiennement ou régulièrement en tous les cas ?
Non, on n'est pas fliqué. On voit d'ailleurs que de temps en temps, les protocoles sont moins appliqués que dans d'autres endroits. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça, je vais pas juger. Nous devons être un petit peu les leaders et montrer le bon exemple et faire en sorte que tout le monde applique ce protocole parce que c'est trop important. On peut pas jouer avec ça.
Michel Sarran, j'avais une question un peu de béotien, excusez-moi, mais... j'en ai parlé toute l'après-midi à l'équipe, on vous l'a sûrement posé 1000 fois, mais la plupart du temps, les chefs étoilés, ils sont habillés en blanc, et vous êtes toujours habillé en noir. Pardon, mais je me posais cette question, pourquoi vous êtes habillé en noir ?
Bon, vous la voulez...
Non, c'est pour rentrer plus vite chez lui.
Non. À un moment, je disais que c'était par coquetterie parce que le noir est amincissant, on le sait. Mais l'histoire, elle est pas là. L'histoire est que j'avais commandé ces 2 vestes lors d'un salon professionnel et elles sont arrivées le jour où j'ai eu ma 2e étoile Michelin. Et depuis, je m'habille en noir tout le temps. Voilà l'histoire.
Ouais, d'accord. Et moi, je voulais vous poser une question, cher ami.
Smaïn,
que signifie exactement le terme de coup de feu dans une cuisine ? Quand on dit la cuisine, ça y est, c'est le coup de feu. Il y a une explication à ce terme ?
Vous posez la question à qui ?
À vous.
Ah, je croyais que c'était...
C'est vous le cuistot.
Ben, le coup de feu, c'est quand les casseroles s'activent. Il y a toujours un moment dans le service où ça s'intensifie. Il y a une montée en puissance. Il y a de plus en plus de demandes de plats. Il y a de plus en plus de casseroles sur le fourneau.
D'accord, tout le monde s'active.
et tout le monde s'active, et là il y a une pression qui est palpable, quoi. Et il ne faut pas se louper parce que ça peut mettre en péril tout le service.
D'accord.
C'est très intéressant de vous écouter. Merci à vous, Michel Sarran, chef avec deux plaisir. Étoiles de cette belle ville de Toulouse. Et monsieur Top Chef sur M6, l'un des grands chefs de M6, évidemment, de Top Chef. Gilbert, c'était quoi le menu du jour aujourd'hui?
Aujourd'hui, il n'y avait pas de menu du jour.
Bah, comment ça se fait, ça?
Tout était à la carte aujourd'hui. Non, parce qu'on a décidé de faire ça aujourd'hui, parce qu'on avait bien prévu qu'il y aurait un tout petit peu moins de monde.
Ah, bien vu.
Et c'était départ en vacances. Voilà.
C'est le pif du professionnel, ça. On défait le monde, c'est jusqu'à 20h, il est 19h41.
À suivre dans On défait le monde.
La deuxième info pour briller au dîner. Vous découvrirez qui est le loser de l'année et la question du jeu. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la deuxième ce soir dans On défait le monde jusqu'à 20h. Deuxième info pour briller au dîner. Je dis ça pour le président du jury ce soir. C'est Smaïn qui nous accompagne tout en direct.
Merci, bien sûr.
Il est en rodage la semaine prochaine à Marseille pour son futur spectacle qui sera en 2021.
On a le temps.
Dans la capitale.
On a le temps de se tromper, d'avoir des trous de mémoire. Ça s'appelle un rodage.
On a le temps donc d'avoir une info pour briller au dîner. Brice, on prend la route.
Oui, pour ceux qui auront la chance de partir en vacances, vous allez peut-être prendre votre voiture et donc probablement l'autoroute. Eh bien, sachez qu'en France, construire 1 km d'autoroute, ça coûte en moyenne 6 millions d'euros.
Non,
6 millions de kilomètres. Pour 1 km, 6 millions d'euros. Alors en plaine, là où il n'y a pas de difficulté, où c'est tout droit, bah, ça coûte moins cher évidemment. Mais 1 km dans les zones accidentées un peu montagneuses, ça peut aller jusqu'à 50 millions d'euros le kilomètre avec les viaducs, les tunnels, etc. Là. Donc il faut savoir par exemple qu'en moyenne pour 60 km d'autoroute en France, bah, vous pouvez vous payer un Airbus A380 ou bien le Stade de France ou encore la U Arena qui est à Nanterre, la salle de spectacle où aurait dû se produire Céline Dion ce soir et demain soir.
Ça en fait des péages.
Oh là, ça m'intéresse. Ça, là.
La U Arena.
Non, j'aime bien.
Ouais, elle est bien. Tenez, je vous la laisse.
Ça, non, parce que
pour
ça
pas que vous l'oubliez.
Ça éveille une colère en moi, là.
6 millions d'euros du kilomètre.
6 millions,
6
de kilomètre.
Millions d'euros du kilomètre. Mon Dieu.
C'était la deuxième info pour briller.
Le mec, il est prêt à tout pour gagner. Tout. Ouais, c'est terrible.
RTL Soir, on défait le monde.
On va voir Laurent Tessier. Laurent qui se balade partout sur la place du marché à Neuilly avec son petit appareil pour nous permettre de parler avec les gens.
Qu'on appelle un micro.
Un scoop fun dans le langage.
C'est formidable la technologie. Hein.
Alors,
vous êtes à la mairie.
J'ai avancé de 10 mètres, je viens de quitter Mylène et Clémentine pour rejoindre deux maîtresses, Amandine et Hélène, et une maman d'élève qui s'appelle Ingrid. Alors, Amandine.
On dit pas professeur des écoles, Laurent?
Oui, maîtresse, c'est terminé depuis 73.
Moi, je suis nostalgique des maîtresses.
Mais vous êtes vieux, Amandine, surtout.
Amandine, vous êtes en vacances, donc c'est l'occasion de se réunir avec les amis pour boire un verre en terrasse.
C'est ça, en fait, les vacances tous ensemble en terrasse. Il fait beau, on en profite.
Ingrid, la maman d'élève, c'est quoi l'apéro idéal en ce moment?
Un petit verre de rosé, quelques glaçons, des bonnes, des amis et voilà, et de la joie, des sourires, des rires et la vie.
Alors, il y a, vous savez, aujourd'hui dans cette émission, la fameuse question piège, la question fatidique pour remporter un stylo rouge RTL, et ça tombe sur Hélène, notre enseignante en CM1. Hélène, bonsoir.
Bonsoir.
Savez-vous qui est Jean Castex, Hélène?
Pas du tout.
Ah.
Aucune idée. Un chef d'entreprise, un politique, mon oncle.
Votre
ma soeur.
Oncle.
Ah, et non, mauvaise réponse. C'est le Premier ministre.
Eh ben, je n'étais pas au courant, j'étais en classe aujourd'hui, donc je n'ai pas suivi les informations.
Désolé, il n'y aura donc pas de stylo rouge RTL pour nos deux enseignantes et la maman d'élèves.
Voilà Jean Castex qui, depuis cet après-midi, est l'oncle nouveau chef du gouvernement en remplacement d'Edouard Philippe, qui a quitté Matignon. Vous avez tout vécu dans RTL Soir, tout en direct, il est 19h46.
RTL, le loser de l'année.
Elle a vu les choses en grand, elle a décidé de désigner le grand perdant de l'année, le loser de la saison, celui qui a eu le pire karma en 2019-2020. Et Céline, vous avez beau être impitoyable, même pour vous, ça n'a pas été facile. Hein.
Non, il y a eu débat. On a pensé évidemment à Agnès Buzyn, l'étoile montante de la Macronie, qui rêvait de l'hôtel de ville et qui finit conseillère d'arrondissement dans le 17e arrondissement de Paris. Donc.
Oui, c'est ça.
Mais Agnès Buzyn, on en a déjà beaucoup parlé cette semaine. On s'est dit qu'elle avait eu sa part. Donc, on s'est attaqué, comme on a peur de rien, à notre ministre de tutelle, en tout cas pour l'instant, Franck Riester, qui a connu une année difficile. Rappelez-vous, dès le mois de février, interrogé sur une possible victoire de Roman Polanski au César, il expliquait le matin de la cérémonie.
Moi, j'estime estime que ce serait un symbole mauvais par rapport à la nécessaire prise de conscience que nous devons tous avoir dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Et quelques heures plus tard,
le César de la meilleure réalisation est attribué à
Roman Polanski pour J'accuse.
Voilà, raté, et c'était pas fini. Ça commençait mal, mais c'était pas fini. Quelques jours plus tard, le coronavirus commence à toucher le pays.
Le coronavirus touche Franck Riester.
Le ministre de la Culture est confiné chez lui. Il a été testé positif au coronavirus.
Alors Franck Riester s'en remet, heureusement il revient, le monde de la culture lui est aux abois, il réclame au ministre un grand plan pour sauver le secteur sinistré. Mais le 5 mai, quand les réponses viennent, c'est pas Franck Riester qui les donne, c'est Emmanuel Macron, avec ses métaphores qui n'appartiennent qu'à lui.
Là on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre, et donc le domestiquer. Il va pas disparaître, le tigre, il sera là, et la peur sera là dans la société.
Ça va marquer son quinquennat, ça.
Mais le seul moyen qu'il ne tout dévore pas, c'est de l'enfourcher.
Les années à venir, je pense.
Oui. Ah,
le tigre. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait, Franck Riester?
Il notait, il écrivait.
Des notes. Exactement,
son petit stylo, RTL.
Vient ensuite la fête de la musique, l'occasion peut-être de se relancer. Alors le 19 juin, il était venu sur RTL expliquer les règles.
Depuis toujours, on a besoin de musique pour vivre. Et donc il faut célébrer la musique, célébrer les artistes aussi qui ont été exceptionnels pendant le confinement. Et en même temps, on comprend bien qu'on ne peut pas faire la fête comme on le faisait d'habitude, en regroupant les uns contre les autres dans toutes les rues de France.
Mais à l'arrivée,
faut-il craindre le retour de bâton après ces images de fête cette nuit en plein Paris?
Des centaines de personnes dansant près du canal Saint-Martin pour fêter la musique au son de la techno. Pas ou peu de masques, encore moins de distanciation physique.
Et comme si ça suffisait pas, voilà le remaniement et beaucoup, dont Smaïn donne déjà le ministre de la Culture partant. Oui.
Ça, je m'interroge vraiment sur cette fête de la musique du 21 quand même. On le savait quand même qu'il allait y avoir des milliers de gens. Ouais. C'est fou ça qu'il ait pris cette directive, cette... Bon, allez, c'est fait. Il va être viré.
Franck Riester donc.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la troisième de ce soir, c'est l'humoriste Smaïn, notre invité qui est le président du jury, et donc c'est Cyprien qui s'y colle pour la troisième, et on est à table.
Ouais, c'est l'info gagnante, vous l'avez compris, on est sur une grosse thématique, bar et restaurant ce soir, mais je suis sûr que vous ne connaissez pas l'histoire du premier restaurant. Il a été ouvert en 1765 par le dénommé Mathurin Rose de Chantoiseau, dans le quartier du Louvre à Paris. En fait, il va avoir une idée complètement dingue et nouvelle, carrément inédite même, c'est le premier à proposer des tables individuelles et des plats à choisir sur un menu. En fait, avant, on mangeait dans des tavernes, des auberges, sur des tables collectives, avec un plat unique, sans intérêt. Révolution de Chantoiseau, qui fixe sa devanture le terme « restaurant », et là est né le restaurant.
Ah, je ne le savais pas.
Et ben voilà, petite page d'histoire avec Cyprien pour la troisième info pour briller
c'est
au
pas mal. C'est pas mal, ouais.
Le président du jury va s'exprimer d'ici quelques instants, bien sûr, tout en direct.
La Dream Team, c'est la grosse voix. J'écoute attentivement vos infos pour briller. RTL Soir, on défait le monde.
19h52, on défait le monde jusqu'à 20h, c'est l'heure du billet retour.
Oui, le 3 janvier, fidèle à la mission de vous informer qui nous est chevillée au corps, on avait décidé de convoquer tous les chefs de service de RTL, la crème de la crème, en leur demandant quels allaient être les grands rendez-vous de 2020. Eh bien, Brice, 6 mois plus tard, vous faites le point sur ce calendrier qui a un poil explosé.
Hein. Oui, mais c'est vrai, Cyprien, que vous aviez posé les bases de cette année 2020 avec beaucoup d'ambition.
Ce soir, vous saurez tout sur les événements qui vont marquer cette année 2020. Police, justice, sport, étrangers, éco, qualité de la vie, météo, culture politique.
Mais évidemment, impossible de voir venir l'imprévisible Covid. Donc pour faire le point aujourd'hui, commençons avec la police-justice. Guillaume Chiez était venu nous annoncer le grand procès prévu cette année.
Un énorme procès cette année qui va durer un peu plus de 2 mois. Ça va se passer du 4 mai au 10 juillet. C'est le procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher.
Finalement, ce procès a été reporté à cause du Covid. Il se tiendra au mois de septembre avec à la fois les contraintes de sécurité liées à un procès pour terrorisme et puis maintenant les normes sanitaires, un vrai casse-tête. Et ce report devrait entraîner un autre changement de calendrier pour le procès très attendu des attentats du 13 novembre. Début fixé en janvier 2021 à l'époque. A priori, il devrait plutôt se dérouler en septembre 2021.
Plus léger, on a fait les événements sportifs aussi.
Bah oui, Christian Olivier, le chef des sports de RTL, était venu plein d'entrain nous en promettre.
Pas un, pas deux, mais 3 événements. Je vous vends. Je vous vends 3 événements dans l'ordre chronologique. L'Euro 2020, ensuite le Tour de France et les Jeux Olympiques. On va se régaler
Il avait presque raison, Christian. Pas un, pas deux, mais finalement pas trois non plus. Tous ces événements ont été reportés. Alors le Tour de France partira bien cette année. De Nice, ce sera le 29 août, arrivée prévue à Paris le 20 septembre. Un Tour de France de rentrée exceptionnel. Pour l'Euro et les JO, ce sera l'année prochaine, du 11 juin au 11 juillet pour le foot. Et les Jeux Olympiques auront lieu à Tokyo du 23 juillet au 8 août.
Alors Brice, il y a eu le Covid, ok, mais certains n'avaient pas vu venir d'autres obstacles.
Oui, Benjamin Sportouche, le chef du service politique, était venu nous parler évidemment des élections municipales.
Mais bien sûr, à Paris, c'est un duel fratricide quand même entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani qui va l'emporter. Est-ce qu'ils vont rester tous les deux sur la ligne de départ en interrogation? Parce que pour l'instant, eh bien, écoutez, Benjamin Griveaux s'accroche. Si au moins ça peut nous permettre d'avoir un beau débat, eh bien ça sera formidable.
Eh bien non, la sortie
ça
de route.
Ça pour s'accrocher, ça.
Oui, il s'est accroché. La sortie de route de Benjamin Griveaux n'a rien
même décroché, hein.
Avec le Covid, mais elle était là aussi imprévisible. En tout cas, pas de débat tant souhaité et Anne Hidalgo a été réélue.
Et certains avaient pris les devants. Il y en a qui s'étaient montrés plus prudents.
Oui, Anthony Martin, chef du service culture de RTL, était venu nous annoncer la sortie d'un quatrième album très, très, très attendu.
C'est Adèle.
C'est la sortie musicale attendue à l'échelle planétaire, le prochain disque de la chanteuse Adèle. Donc voilà, ça c'est vraiment l'événement musical planétaire. Elle va en vendre encore énormément.
Et
les fans l'attendent. Alors ça, on ne sait pas. Justement, il y a un gros mystère autour d'Adèle. Ça, on ne connaît pas encore la date de sortie.
Voilà, malin Anthony Martin. Et donc prudemment, quand on lui avait demandé qui pouvait être le grand perdant de l'année 2020 dans sa spécialité, la culture, voici sa réponse.
Et vous avez un petit loser au service culture à prévoir cette année ou pas?
Bah c'est moi. Quoi? Parce que si Adèle sort pas son album, vous allez tomber dessus.
Voilà, l'année n'est pas encore finie, mais pour l'instant, toujours pas d'album d'Adèle. Rendez-vous à la fin de l'année avec Anthony Martin.
Bon, et enfin, Brice, il y a celui qui a fait preuve de clairvoyance, qui avait presque vu venir la chose.
Et oui, c'est mon chef de service, Christophe Decroix. D'abord parce que pour lui, l'événement majeur de 2020, bah, c'était l'imprévu.
J'en sais rien. Non, mais ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être, je sais pas, un tsunami, une guerre.
Ah, une guerre.
Ah, c'est pas très joyeux, mais il avait quand même fini par annoncer un événement.
Il y a un événement, notez bien cette date, ça sera le 3 novembre 2020. Ça sera la 59e élection présidentielle américaine.
Eh bien pour le coup, cette élection américaine, elle est toujours d'actualité. Bravo chef, bravo patron.
Bien, retour exceptionnel ce soir. Signé.